enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis content d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Souris un peu à ton voisin. Amen. Il faut sourire juste un peu à ton voisin. Détends ton visage. C'est extraordinaire d'être dans la présence de Dieu. Le Seigneur est ici. Amen. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Alléluia. Rien de plus exceptionnel que d'être dans sa présence. Ce matin, nous avons un message qui vient d'en haut, un message qui vient du trône, un message qui vient de Dieu. Alléluia. Qui a été envoyé par lui pour nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans Jean 3:16? Jean 3:16. Ah, c'est un verset biblique que nous connaissons depuis l'école du dimanche, pour ceux qui étaient à l'école du dimanche. Ou alors même quand nous étions encore dans le monde, c'est un verset biblique que nous connaissions. Amen. Jean 3:16. All right. Amen, 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 amen. Jean 3:16. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 3:16. Merci Seigneur. Jean 3:16. Si tu es là, tu dis amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Seigneur, merci de bénir ta parole. Je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Je prie et je demande un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de chaque cœur, que ce message éternel se dépose dans chacune de nos vies, puisse nous aider à comprendre, éternel, quel est l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur, sa preuve d'amour que tu as manifesté afin que ton nom soit glorifié. Père, je prie et je me lève contre toutes les puissances occultes, contre toutes les œuvres des ténèbres de l'enfer, contre ce message. J'annule leurs effets et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que règne dans cet endroit la présence de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que chacun dise amen. Alléluia. Le message que j'ai ce matin s'intitule « La preuve d'amour ». La preuve d'amour. La preuve d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je commence par Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, souvent quand nous avons approché ce passage, nous avons pensé que on parle d'amour pour le monde simplement en ce qui concerne l'homme. Hein, la Bible n'a pas dit qu'à Dieu a tant aimé l'être humain, mais la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde. Que veut dire monde? Le monde, c'est quoi? Le monde vient d'un mot cosmos, qui veut dire l'univers, l'agencement ordonné. La Bible dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Alors, pourquoi est-ce que ce passage reflète au monde au lieu de parler simplement de l'homme? La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Regardez ce qui s'est passé quand Dieu devrait créer ce monde. La Bible dit au commencement, n'est-ce pas? Dieu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé à créer au commencement. Et quand il a créé, il a amené à manifestation d'abord la lumière, ensuite il a séparé les eaux avec les eaux, il a suscité les poissons dans la mer, il a suscité les plantes de la terre, il a suscité les oiseaux dans les airs, et c'est par la suite maintenant que l'homme, Dieu a créé l'homme. Mais quand vous regardez la création, elle témoigne de la grandeur de Dieu et de sa puissance. Quand vous regardez la mer, les étendues des eaux qui s'étendent, qui vont jusqu'à l'infini, parce que la mer est a deux fois plus d'espace même que la terre. Mais la mer ne va jamais dépasser ses limites et respecte ses limites. Encore là, c'est la preuve d'amour et de grandeur de Dieu. Quand nous regardons la terre et ce que Dieu a fait, même dans la mer, nous voyons les poissons, la beauté des poissons, les requins, des poissons colorés. Quand vous regardez la création, c'est simplement sublime. Et chaque fois que Dieu a créé, la Bible dit, Dieu a regardé ce qu'il a fait et il dit, je vois ce que j'ai fait est très bon. Et donc, par la suite, il va amener à manifestation sous la terre des choses cachées qu'il faudra creuser pour retrouver comme l'or, comme les diamants, des choses précieuses. Il a déposé en chaque espace de la création des choses extrêmement sublimes. Et chaque fois qu'il a créé, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était des choses très bonnes. Dieu est un Dieu d'excellence. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Il est excellent. Il fait tout excellemment. Mais maintenant, quand il s'agit de créer l'homme, Dieu est allé au-delà, n'est-ce pas, des capacités qu'il avait déjà manifestées. La Bible dit que Dieu a regardé la création, l'œuvre de ses membres, et ensuite, il s'est dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, afin que l'homme vienne dominer sur la création que nous avons faite. Et Dieu, n'est-ce pas, pour faire l'homme, il n'a pas utilisé quelque chose qu'il avait déjà, mais il s'est dit, il faut que je sorte l'homme de moi-même et que l'homme me ressemble, que l'homme soit comme moi. Et Dieu a sorti l'homme de lui. Il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a créé l'homme dans les cieux. Il a créé l'homme au troisième ciel. Mais maintenant, il devrait confier à l'homme la responsabilité de toute la création, de tout ce qui a été fait par ses mains. Il a donné à l'homme une responsabilité au-dessus des anges, au-dessus des archanges, au-dessus des démons, au-dessus du diable. Il a placé l'homme juste après lui. En ce qui concerne l'autorité, il a mis l'homme juste après lui. Et il a confié à l'homme l'œuvre de ses mains. C'est pour ça qu'au moment de la manifestation de l'homme, il n'a pas jugé utile de s'appuyer sur ce qui avait une valeur extérieure. Il n'a pas pris le diamant, il n'a pas pris l'or, il n'a pas pris quelque chose qui, aux yeux du physique, pouvait ressembler à quelque chose de glorieux. Mais il a décidé, et regardez ce que Dieu va faire, de prendre la terre, le sol, là où les animaux avaient marché, là où le coq avait fait ses excréments, là où l'éléphant avait uriné, c'est là que Dieu va aller chercher la matière qui va servir à contenir la gloire que Dieu a suscité pour régner sur la terre. Il va donc prendre la poussière du sol et il va former l'homme et ensuite il va souffler en l'homme un souffle de vie. Et l'homme va devenir une âme vivante. Et quand il va regarder l'homme, au lieu de dire bonjour, comment ça va, il dit, je te bénis, sois fécond, multiplie, assujettis, remplis et domine. Et toute la création observe ce que Dieu vient de faire. Quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, il n'a pas jugé utile de prendre quelque chose qui avait de la valeur. Mais il a pris quelque chose qui était méprisable. Et il a soufflé à l'intérieur cet homme qu'il avait conçu. Et la Bible dit, il a donné à l'homme l'autorité, disant à l'homme, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je te donne l'autorité sur la terre. Mais, suivez-moi attentivement, quand il a parlé à l'homme, par la suite, la Bible dit, il amène à l'homme, n'est-ce pas, au milieu du jardin, et il dit, homme, je te donne cette autorité. Tu es ma création, tu es préféré. Je t'ai choisi au milieu de toute cette créature, de tout ce que j'ai fait, comme le suprême, comme celui qui devrait me représenter, pour pouvoir jouir de toute la gloire de ce que j'ai amené à manifestation. Tout ce que Dieu avait fait était si excellent que c'était une place de choix et une place très, 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 très prisée que Dieu venait de donner à l'homme dans l'univers. Maintenant, il dit à l'homme, écoute-moi homme, tu pourras manger du fruit des arbres, de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi est-ce qu'il interdit à l'homme de manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre la connaissance du bien et du mal? Parce que Dieu connaît ses lois et il sait que pour pouvoir jouir de la véritable liberté, il faut d'abord découvrir où se trouve la limite de ma liberté. Alors il prescrit la limite de la liberté de l'homme. Tu manges les fruits des arbres de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne cet arbre, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les limites de ta liberté s'arrêtent au niveau de cet arbre. Mais homme, je te donne l'autorité sur tout ce qu'il y a sur la terre. Et la Bible dit que quand Dieu a regardé ce qu'il avait fait, lui-même il a vu, pas que c'était bon, mais que c'était très bon, que c'était excellent, que c'était glorieux ce qu'il avait réalisé. Et l'homme était dans le jardin d'Éden avec une parfaite relation, une parfaite communion avec Dieu. Et je vous rappelle que dans le même jardin d'Éden, Dieu savait qu'il y avait un invité qui n'était pas invité et qui devait venir souvent dans le jardin. Il savait que le diable allait tout faire pour essayer de déstabiliser le règne de l'homme. Mais il dit à l'homme, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Donc il donne à l'homme le pouvoir, l'autorité de contrôler le jardin d'Éden. Il lui donne la force nécessaire d'imposer, n'est-ce pas, sa force dans ce jardin. Et l'homme, la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, laissa l'homme dans le jardin, ayant une relation permanente, continuelle, agréable avec lui. Alors le serpent était l'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs. La Bible dit, le serpent vint vers l'homme. La Bible n'a pas dit Satan vint vers l'homme. Écoutez-moi bien, mais le serpent vint vers l'homme. Parce que le diable n'était pas invité à cet endroit précis. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Le diable n'était pas invité. L'homme était la créature suprême. Et la seule subtilité que le diable pouvait utiliser pour pouvoir être introduit dans le jardin d'Éden, c'était de passer par une créature qui avait été créée, qui avait été faite par Dieu et manifestée sous le règne de l'homme. Le diable est passé par le serpent. Mais la Bible n'a mentionné à aucun moment que le serpent vint vers l'homme. La Bible dit, et que le diable vint vers l'homme. La Bible dit le serpent, qui était un des animaux les plus rusés d'entre les animaux des champs, vint ensuite vers l'homme. Il dit, ok, mais est-ce que Dieu a véritablement dit que vous ne devez pas manger du fruit de cet arbre? L'homme dit, il est venu vers l'homme par le biais de la femme. La femme regarde le serpent et dit, écoute, Dieu n'a pas simplement dit de ne pas toucher, mais il a dit de ne pas manger, mais il a dit de ne même pas toucher, car le jour où on touchera, on mourra. Alors, le serpent commence à rire. Il dit, mais vraiment, tu es naïve, Ève. Comment est-ce que Dieu peut te demander de manger tous les autres fruits et puis t'interdit celui-là? S'il le fait, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière qui vous donnera la capacité d'être comme lui. Pourquoi Dieu n'est pas gentil, n'est pas correct? Il veut toujours contrôler toutes choses. Il veut régner. Il veut être le chef. Il ne veut pas que quelqu'un soit. Vous savez? Et c'est exactement ce qui se passe quand l'esprit de rébellion commence à arriver dans un endroit. Les gens veulent prendre la place du leader. Ils commencent à dire, mais pourquoi est-ce que lui, c'est lui qui roule dans telle voiture? Pourquoi c'est lui qui prie pour les gens? Pourquoi c'est lui qui fait ci? Mais Dieu a établi les choses dans une certaine autorité. L'homme jouissait de tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'aller manger du fruit de cet arbre pour être épanoui, parce que Dieu lui avait déjà tout donné. Alors la femme regarda le fruit et elle se dit, haha, j'ai une autre information. Il se peut que Dieu soit menteur. Il ne m'a pas dit la vérité. D'ailleurs, lui et son Adam, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller, il faut que je mange ce fruit pour que je sois comme Dieu, que je devienne comme lui. Alors la chose la plus triste, la chose la plus méprisable, c'est que Ève n'a pas réalisé un seul instant que ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas des ailes qu'elle n'était pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle ne volait pas dans les airs qu'elle n'était pas au-dessus d'un ange. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, elle n'apparaissait pas et disparaissait comme les autres qu'elle n'était pas puissante. Mais sa force était au-dessus même des anges qui apparaissent et disparaissent, parce qu'ils étaient sous ses ordres. Elle a regardé à ce qui était visible, elle a méprisé ce qui était invisible. Elle a écouté une autre parole, elle a méprisé celle de Dieu. Elle a traité la vérité de mensonge et le mensonge de vérité. Et elle a choisi, je mangerai de ce fruit. Vous savez, ce qui m'impressionne souvent, c'est de voir comment est-ce que certains chrétiens méprisent la gloire que Dieu leur a donnée, parce que s'il n'y a aucun diplôme qui atteste que tu as une gloire X. Non, tu n'as pas besoin de voir pour croire. La Bible dit qu'il nous a fait un sacerdoce royal, une nation sainte, les prunelles de ses yeux. Je n'ai pas besoin de le voir pour le croire. C'est ce que la Bible dit. Chaque fois que vous voulez voir la chose avant de la croire, Vous commencez à opérer dans le naturel. Et quand tu opères dans le naturel, tu es à la merci de la force des ténèbres. Parce que le diable ne va jamais t'avoir aussi longtemps que tu restes connecté au surnaturel. Parce que dans le surnaturel, tu es au-dessus de lui. Alors la Bible dit, Ève prit le fruit. La Bible n'a dit à aucun moment que le diable prit le fruit. Elle prit elle-même. Personne d'autre n'a pris à sa place elle-même. Et je veux attirer votre attention sur ce point. Ève n'était pas possédée. Ève n'avait pas d'arrière-grand-père qui était possédé. Donc, Ève a pris, elle a mangé. Sans aucun problème. Elle n'était pas possédée. Aujourd'hui, Quand les gens ont des problèmes, on dit non, il est possédé, il faut qu'il fasse la délivrance pour que Dieu... Non, le problème c'est notre mentalité. Comment est-ce que nous voyons les choses? Comment est-ce que nous nous voyons nous-mêmes? Parce que nous finissons par devenir ce que nous croyons. Comment est-ce qu'on voit les choses? Oh non, si c'est arrivé, c'est parce que ton père était un sorcier. Oh ma soeur, il faut te retirer. Il faut qu'on t'impose les mains. On t'a imposé les mains. Tu t'es retiré. Jeune d'Esther, jeune de Moïse. Tu as fait tous les jeunes du monde entier, mais ta vie n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que pour que ça bouge, il faut que ça bouge à l'intérieur de toi. Il faut que tu ajustes les choses à l'intérieur et que tu décides de prendre Dieu comme étant le centre de la vérité. Vous comprenez? Il faut que ça bouge à l'intérieur. Si ça n'a pas bougé, rien ne va se faire. Comment est-ce que tu penses? Quelle est ta manière de voir les choses? Est-ce que tu vois les choses comme Dieu les voit? Ou alors tu les vois comme tu les vois, ou tu les vois comme le diable te demande de les voir? Comment est-ce que tu vois les choses? Et donc, Ève prit le fruit. Et je vous rappelle que Ève, si c'était aujourd'hui, on aurait demandé à Ève de venir faire sa délivrance. Et nous allons couper son cordon ombilical qui la relie, parce que les ancêtres certainement ont eu des problèmes, et c'est pour ça que Ève se comporte de la sorte. Vous savez, on a trop d'excuses, surtout en Afrique. Ah non, c'est mon père. Oh non, c'est le canari du village. Si le canari du village a encore une influence dans ta vie, tu ne connais pas encore le Dieu que je sers. On parlera de ça plus tard. Le canari n'a aucun pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Aussi longtemps que je crois, aussi longtemps que le Fils m'a affranchi, le canari n'a plus de pouvoir. Alors s'il fallait délivrer Ève, il fallait aller voir Dieu. Ça veut dire que son cordon ombilical, c'était Dieu. Si la théorie du fait que quand j'échoue, c'est mon père qui a péché, ça veut dire que vous faites de Dieu un pécheur. Le premier pécheur avait pour père Dieu lui-même. Aucun autre lien. Mais Dieu n'était pas possédé, il n'a jamais été possédé et ne sera jamais possédé. Mais n'empêche que Ève a échoué. Est-ce que vous me comprenez? Et l'échec d'Ève était grave. Parce que quand elle a échoué, le mari qui était à côté, paf, il a pris le fruit, il en a mangé. Et vous savez, il a mangé le fruit, mais il n'avait pas encore d'enfant. Donc, automatiquement, l'enfant qui est né après le péché, donc sous l'influence de la malédiction qui avait été prononcée. S'ils avaient eu un enfant avant, ça aurait résolu le problème. Dieu aurait séparé les pères des enfants, et les enfants auraient continué la marche sans les pères. Mais les enfants avaient été contaminés, parce qu'ils étaient encore dans le sein, n'est-ce pas, de leur père. Vous savez, la raison pour laquelle nous avons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et nous voyons tout ce qui se passe dans l'Afrique aujourd'hui, où il y a une corruption au niveau de tous les ministères, où certaines choses maléfiques se passent, c'est simplement parce que le diable sait qu'il faut corrompre la nouvelle génération avant même qu'elle ne réalise ce que Dieu a pour elle. Est-ce que vous me comprenez? Il faut la corrompre. Et la corruption commence même avant que tu ne sois né. Mais tu dois te lever pour dire, je ne refuse d'être contaminé par cette corruption parentale au niveau de l'église. Parce que je suis une autre génération que Dieu suscite pour faire différemment dans mon temps. Je ne vais pas reproduire les erreurs que mes aînés, n'est-ce pas, ont produit. Jamais. Parce que le diable sait que ta destinée est grande. C'est la raison pour laquelle il a attaqué ton père. En fait, ce n'est pas ton père qu'il vise, mais c'est toi qu'il vise. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que ton père possède à l'intérieur que le diable vise et non ton père. Donc, Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari et ils en ont mangé. Et la Bible dit dès cet instant, si vous rappelez-vous, que avant que l'homme ne soit créé sur la terre, il y a eu un problème entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le diable, dans le jardin d'Éden. Donc, le diable a levé, s'est levé contre Dieu, a voulu prendre la place de Dieu. Dieu a dit à Satan, hé, toi, tu veux t'élever contre moi. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors Dieu a regardé le diable, il a dit, ok, je suis trop grand pour venir me battre avec toi. C'est quand même Dieu. J'ai quand même été le créateur, Satan. Avant même que tu n'existas, j'étais amené à manifestation dans mes pensées. C'est moi qui t'ai suscité. Comment est-ce que tu peux penser un seul instant que tu prendras ma place? Tu veux faire un coup d'état ici au ciel? Non, Satan, entre nous. Qui t'a poussé jusque-là? Bon, ok. Quels sont ceux qui ont été avec toi? Le un tiers des anges. Vous allez débarrasser ma présence. Dieu a montré l'autre côté de sa personne. Il a montré le Dieu juste et le Dieu de jugement. Vous débarrassez ma présence. Je vais vous montrer que je peux faire sans vous et mieux encore. Alors, il a propulsé le diable sur la terre. Et il dit à Satan, pendant qu'il s'en va, attends, tu vas voir ce que je vais faire là en bas. Je vais susciter une autre créature qui va te montrer, moi, ce que je suis capable de faire. Je ne vais pas te toucher, mais elle va te toucher. Je ne vais pas te parler, mais elle va te parler. C'est elle qui va parler à ma place. Donc, le but pour lequel l'homme est suscité, c'est d'abord pour venger Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu a eu un problème. L'homme a été suscité pour venger Dieu. Pour venger Dieu, c'était pour amener la vengeance. L'homme a été suscité pour ça. C'est pour ça que la première chose que Dieu dit à l'homme, il dit, je te bénis, sois fécond, multiplie, assujettis, remplis et domine. Pourquoi est-ce que Dieu parle de domination? C'est parce qu'il sait qu'il y aura une résistance. Mais il dit domine, je t'ai donné le pouvoir de contrôler toutes choses. Domine sur tes pensées, sur tes actions. Domine sur tous les animaux de la terre. Et que les choses se fassent sur la terre comme tu auras voulu qu'elles soient. Quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent plus dominer, mais qui subissent et qui ne dominent pas. Il faut dominer, il faut contrôler. Tous les secteurs, il faut dominer. Donc, quand cela se produit sur la terre, le diable, non simplement, il prend la place que l'homme avait, mais le plus grave, c'est que pour la première fois, la corruption va toucher la création de Dieu. Le diable va corrompre ce que Dieu a fait. Le diable va corrompre l'argent. Il va corrompre l'or. Il va corrompre le diamant. Il va corrompre les animaux. Il va corrompre les plantes. Il va corrompre la nature. Et Dieu va regarder à la création et va dire, c'est pas croyable. C'est l'œuvre de mon imagination. C'est ce que j'ai fait avec toute ma sagesse. Regardez ce que l'homme a fait. Il a confié cette création à Satan. Il a choisi de s'allier au diable. Et dès ce moment, le diable est devenu le dieu de ce monde. Et l'homme qui a été créé pour adorer va devenir un meurtrier. Caïn va tuer son frère Abel. Et par la suite, vous vous rendez compte, l'argent qui a été fait pour les échanges va commencer à être fait pour amener un homme à s'avilir. Le diable va corrompre tout ce qui a été créé par Dieu. Et la Bible dit que Dieu regarde ce qui s'est passé. Et il a mal en lui-même. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu, quand il a vu cette chose, Dieu a été découragé. Il a regardé ce qu'il a fait. Il dit, waouh, c'est grave. Il regarde, et je peux vous dire que le cœur de Dieu a été meurtri. Il regarde Caïn qui tue son frère Abel. Il regarde sur la terre les guerres. Il regarde les animaux qui commencent à s'attaquer entre eux, à se dévorer. Il dit, c'est pas croyable. J'ai créé ces animaux pour qu'ils cohabitent. Et maintenant, la haine a pris le contrôle de la terre. Il dit, ok, je suis quand même Dieu. Je me répands d'avoir créé l'homme. Parce qu'à cause de lui, toute ma création était corrompue. Je vais détruire. Je vais tout détruire. Et quand Dieu dit, je vais détruire, il ne dit pas, je vais détruire l'homme. Il dit, je vais détruire l'homme, les animaux, les oiseaux et tout ce qu'il y a sur la terre. Je détruirai tout afin que rien ne subsiste parce que j'ai été totalement déçu par le comportement de l'homme. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Le découragement est un sentiment normal qui peut arriver dans la vie de quiconque est appelé par Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, c'est normal qu'à des moments précis de ta marche, tu connaisses le découragement. Les choses ne vont pas toujours se passer comme tu penses. Les choses ne vont toujours pas être faciles comme tu l'as tracé. Même Dieu a connu des problèmes. À plus forte raison, toi qui as été fait à son image. Dieu lui-même a été découragé. Dieu lui-même a eu mal. C'est arrivé. Et souvent aujourd'hui, les gens pensent que non. Quand tu as un problème et que tu as mal, non, c'est tout à fait normal. Ça arrive qu'on soit découragé. Mais le problème, c'est que quand on est découragé, il faut jamais abandonner. Dieu a été découragé, mais Dieu n'a pas été abandonné. Qu'est-ce que Dieu a fait pour être encouragé? Il a regardé à toute la création et il s'est rendu compte que malgré la corruption, il y avait quand même un autre homme sur la terre qui, lui, avait décidé de ne pas ressembler aux autres. Qui avait décidé de dire à Dieu, « Hey, Dieu, c'est pas parce que mon père l'a fait que moi aussi je le ferai. » Hein, je ne refuse d'être comme mon père. Moi, je m'appelle Noé et lui s'appelait Adam. S'il a été rebelle, moi je te dis, Dieu, je veux marcher avec toi. Dieu, donne-moi une chance. Fais-moi confiance. Je vais te prouver que tu désires qu'on puisse te faire confiance. Pourquoi? Parce que Noé a pris conscience. Il s'est regardé lui-même et il a vu le perroquet. Il dit, waouh, J'aurais pu être un perroquet, mais Dieu a voulu que je sois un homme. Il s'est regardé, il a vu le mille pattes. Il dit, j'aurais pu être mille pattes, mais Dieu m'a fait homme. Non, je n'aurais pas, je vais pas me rébeller contre mon créateur, contre celui qui m'a pensé. Non, jamais. J'irai vers lui et je lui dirai, je me déconnecte de la rébellion de mes pères. Je refuse de m'identifier au geste d'Ève. Parce que moi, je veux montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort. Même si mon père lui fait croire qu'il a eu tort. Moi, je lui dis, il n'a pas eu tort. Et vous savez, pour la première fois, un homme va prêcher à Dieu. Noé va aller vers Dieu pour dire, je sais que ça va mal. Noé, je sais que tu as des problèmes. Dieu, tu as des problèmes, mais laisse-moi te dire, prends courage, fais-moi confiance. Je te montrerai de quoi je suis capable. Tu peux encore compter sur moi. Et puis quand il va parler à Dieu, Dieu va être touché à l'intérieur de lui-même. Et il va se lever. Il dit, Noé, tu ne peux pas savoir quelle était ma douleur. Et quelle était ma peine? Noé, tu m'as fait tellement de bien. J'ai cru que j'avais fait ça pas, que je m'étais trompé. Mais toi au moins, au milieu de tout ça, tu me prouves que je ne me suis pas trompé. Et Dieu va essuyer ses larmes. Il va dire, Noé, je te fais confiance. Merci. Merci Noé, tu m'as donné une opportunité, n'est-ce pas, de ne pas échouer dans mes projets. Parce que Dieu avait échoué. Et Noé est venu dire à Dieu, je vais te relever. Tu ne choueras pas, je vais te relever. Même si dans cette nation, certains ont échoué par rapport à Dieu, certaines autres personnes peuvent se lever et dire à Dieu, tu ne choueras pas. À cause de moi, je tiendrai ton alliance dans cette nation. Je marcherai avec toi. Je laisserai éclaterer ta gloire dans ma dispensation. Oui, il faut toujours quelqu'un qui se lève et qui dise à Dieu, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Et la Bible dit, Dieu cherche un homme. Un, pas deux, mais un qui dise, je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Je cherche un homme. Et il a trouvé Noé comme cet homme sur lequel il pouvait s'appuyer. Et il dit à Noé, tu m'as fait du bien. Maintenant, va construire l'arche. Et à cause de toi, je vais sauver ta famille. Je vais sauver ta famille et certains animaux, mais je vais détruire tout le reste. Avec toi, je vais recommencer quelque chose de grand. Avec toi, je vais préparer la venue d'un autre Messie. Avec toi, je vais donner l'opportunité à l'homme de reprendre sa place. Parce que tu m'as tant aimé, Noé. Je vais donner la preuve d'amour que j'ai pour l'homme. Par toi, je prouverai à l'homme que moi aussi j'ai. Je l'ai aimé dès le commencement. Et c'est comme ça que Noé a donné à l'homme, à Dieu, la capacité d'apporter, n'est-ce pas, cette preuve. Et plus tard, pas après Noé, des descendants de Noé, viendra un homme qu'on appelle Abraham. Et dans Abraham, n'est-ce pas, parce que un fils de Terah, descendant de Noé, Dieu va se rappeler de l'acte que Noé avait posé. Et il veut dire, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va-t'en dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il parle à Abraham. Et Abraham obéit. Et plus tard, Abraham reste longtemps sans enfant. Et Abraham va vers sa servante, Agar, sous l'instruction de sa femme. Et il accouche un fils qu'on appelle Ismaël. Et il présente à Dieu. Dieu dit, hey, je t'ai dit, je te donnerai un enfant. Ce n'est pas celui-là. Tu l'auras de ta propre femme. Et dans les jours de la vieillesse, au moment où Sarah est fatiguée, où elle n'a plus ses règles, où elle est monoposée, où c'est statistiquement déclaré impossible, Dieu dit, maintenant je vais descendre pour montrer à l'homme que je suis Dieu, que j'ai commencé les choses quand il n'était pas là, qu'il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir sa force pour voir ma gloire. Et c'est là où Dieu arrive, au moment de la ménopause de Sarah, où Sarah même riait des promesses de Dieu. Et se disait, c'est impossible. Alors quand les trois anges rendent visite, on dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et c'est là que Sarah donne naissance à Isaac. Isaac qui est né dans la vieillesse de ses parents, mais comme le fils symbole de la relève que Dieu prépare pour manifester, prouver son amour. Et donc Dieu met Abraham à l'épreuve en ce mot. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-lui en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Je vous pose une question. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je dirai. Quand Dieu parle à Abraham, il n'a pas besoin de son fils. Il ne veut pas Isaac. Il a besoin de prouver à Abraham qu'il peut faire quelque chose pour lui. Il dit à Abraham, dans le langage codé, de la foi. Donne-moi la possibilité de te donner mon unique fils. Donne-moi la possibilité de te bénir. J'ai établi mes lois. Et je mesure de la mesure avec laquelle on s'est servi. Je ne peux pas te donner quelque chose que tu n'es pas à même de me donner à moi. Alors, donne-moi la possibilité d'arriver jusqu'à toi. Apporte-moi ton fils. Et vous savez, il y a des choses que Dieu a pour toi. Mais ça n'arrive jamais parce que tu n'as jamais été à même d'apporter l'équivalent à Dieu. Et Dieu, et donc Abraham apporte, n'est-ce pas, son fils Isaac sur la montagne de Morija. Et au moment où il va immoler son fils, un ange lui apparaît et dit, hey, ne le touche pas, détourne-toi. Et il trouve un bélier attaché par les cordes au-dessus de la montagne. Et il va immoler, n'est-ce pas, le bélier. Et Dieu apparaît et lui dit, Abraham, écoute-moi bien mon fils, je te le jure par moi-même. Je mets en sceau la promesse que je t'ai faite. Je dépose en cachet à la promesse que je t'ai donnée. Elle devient irréfutable et irrévocable. Personne ne peut jamais la changer. Jusqu'à pour l'éternité, cette promesse reste stable. Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Tes descendants seront bénis. Je fais de toi une source de bénédiction. Dieu parle à Abraham. Et donc, Dieu s'en va. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui m'étonne quand même dans cette histoire. C'est que malgré la grandeur de l'acte, de péché, de la révolte que l'homme a posé contre Dieu, Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il a regardé à l'opportunité que l'homme lui donnait. Par le biais de Noé, il a dit, je prouverai à l'homme que je l'aime. Je prouverai à l'homme mon amour. Je démontrerai à l'homme qu'il est ma création, qu'il est ma créature préférée. Vous savez, il y a eu un problème entre Lucifer et Dieu dans le jardin, dans la montagne de Sion. Dieu n'a pas donné à Lucifer la deuxième chance. Dès que le problème s'est produit, Lucifer ayant contesté contre l'autorité de Dieu, Dieu a propulsé Lucifer sur la terre. L'homme a péché contre Dieu, mais il n'a pas péché contre son autorité. Il a péché contre sa sainteté. La preuve, ses descendants ont donné une chance en disant, nous voulons marcher avec toi, nous te reconnaissons comme Dieu. Et Dieu n'a pas traité l'homme comme il a traité le diable. Il a dit à l'homme, je te donne une deuxième chance. Parce que je suis ton créateur. Parce que je t'aime. Parce que ce que tu, ton comportement à mon égard est différent. Bien que ta sainteté m'aide dessus, mais la crainte que tu as de ma personne a donné l'opportunité à mon amour de s'exercer à ton égard et de te démontrer que je suis celui qui t'aime et qui t'a créé. Vous savez, j'ai constaté une chose. Dieu est un Dieu qui nous donne toujours une deuxième chance. Quel que soit ce qu'on traverse, il nous donne toujours une deuxième chance. C'est pour ça que, quel que soit ce que tu as enduit, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aussi longtemps que l'appel de Dieu est sur ta vie, aussi longtemps que Dieu t'a appelé et que tu es un enfant de Dieu, il y a toujours une deuxième chance que le royaume des cieux te donne afin que les plans initiaux que Dieu avait pour toi arrivent à manifestation. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a dit, je ne laisserai pas les choses se détruire de la sorte. La Bible dit qu'il a donné son fils unique. Vous voyez, il n'a pas simplement aimé, mais il a prouvé qu'il aime. Il n'a pas simplement dit, je t'aime, mais il a démontré qu'il aime. Il fallait pour le pardon des péchés que le sang soit versé. Et l'homme n'avait pas de sang pour faire pardonner ses péchés. L'homme a reconnu sa faute par le biais de ses descendants, mais l'homme n'avait pas de sang adéquat. Et dans l'Ancien Testament, les sangs que Dieu utilisait pour couvrir les péchés étaient le sang des animaux. Mais le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. La seule chose qui pouvait ôter le péché de l'homme était le sang d'un homme qui n'avait pas commis de péché. Mais où trouver un sang d'un homme qui n'a pas commis de péché? Sur toute la terre, il n'y avait aucun homme qui soit à même de fournir ce sang. Alors, malgré l'amour de Dieu pour l'homme, si Dieu n'aidait pas l'homme, l'homme ne s'en sortirait pas. Il arrive des moments où tu as bien envie de reprendre ta marche. Tu as bien envie de revenir avec Dieu. Tu as bien envie de continuer. Mais par ta propre force, tu ne peux pas. Tu as besoin en ce moment que Dieu apporte son aide et qu'il te tende la main pour t'amener lui-même à reprendre la marche. Et c'est ce que Dieu a fait. Il dit, ok homme, c'est vrai qu'il faut un prix fort pour te ramener à moi. Mais ce que je vais faire, je vais moi-même pourvoir au sang qu'il faut. Je vais moi-même venir mourir à la croix pour toi. Je vais moi-même devenir homme sur la terre. Je vais vivre comme un homme, moi qui suis Dieu, pour te prouver mon amour et je mourrai à la croix pour toi. Et retourne là une minute. Dieu est le créateur. Il a tout conçu. Tout a été fait par sa main. Il n'a pas aucune obligation de descendre sur la terre pour vivre comme un homme ou de devenir un homme. Mais il prouve son amour. Il dit, comme la solution, c'est moi seul qui puisse l'apporter, je vais l'apporter. Il va naître homme dans le ventre d'une femme. Et quand il naît, il va naître dans le ventre de Marie. Le jour où Marie veut mettre bas, il n'y a même pas possibilité pour elle-même d'aller dans un hôpital. Et c'est dans l'étable que Marie trouve une place pour donner naissance au roi de gloire. Dans l'étable, il vient naître au milieu des excréments, respirant, humant, toutes les odeurs des bœufs, des ânes qui étaient là. C'est là qu'il va naître. C'est là où son cordon ombilical va être coupé. C'est là où il va pousser son premier cri. Dans l'étable, il est descendu là par amour pour toi et pour moi. Il a vécu parmi les hommes. Il a mangé avec les hommes. Il a dormi parmi les hommes. Il a été semblable à un homme. Il était charpentier. Il a eu un boulot difficile. Il devait scier le bois. Il devait clouer la charpente. Il a vécu comme un homme. Il a exercé un ministère à l'âge de 30 ans. D'une puissance incroyable. Quand il a commencé son ministère, il est allé voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a reconnu que lui, ce n'était pas un messager comme tout le monde. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est arrivé vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui a dit, non, je ne peux pas te baptiser. C'est pas croyable. C'est toi Dieu, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme baptiserait Dieu? Jésus a dit, laisse accomplir toute justice. Et Jean-Baptiste a plongé Jésus dans l'eau, sachant qu'il tenait le maître de l'univers entre ses mains. Il tenait la solution de l'humanité entre ses mains. Il a descendu dans le Jourdain. Et quand il a relevé, le ciel a apporté son témoignage. Voici mon fils bien-aimé, sur lequel j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Jésus a commencé un ministère de puissance extraordinaire, guérissant les malades, ressuscitant les morts, purifiant les lépreux. Une telle puissance accompagnait le ministère de Jésus sur la terre. Et donc, l'heure fatidique, le temps marqué pour sa gloire, étant arrivé, Jésus devait aller à la croix. Alors, le Fils unique de Dieu, accusé par les hommes, amené au tribunal de Pilate, accusé, condamné, maltraité parmi les brigands, battu de verges, on a craché sur lui, on l'a conduit maintenant à la croix. Et parmi les gens qui le battaient, certaines personnes disaient, hey, mais si tu es Dieu, prophétise et dis qu'il te bat, puisque tu dis que tu as des pouvoirs. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. À l'intérieur de lui-même, il savait que c'était à cause de moi, Raoul, qu'il allait à la croix. Il se disait, même si les autres n'acceptent pas, il y a quelqu'un d'autre sur la terre qu'on appelle Raoul, il acceptera mon sacrifice. Il savait que c'était à cause de toi qu'il allait sur la croix, et il a accepté d'être battu de verges. On l'a insulté, poussé par terre. Et on l'a amené sur la croix. On a commencé à mettre, n'est-ce pas, les clous sur sa main, sur ses pieds. Une telle terreur, une telle douleur que Jésus lui-même, dans la douleur la plus atroce, il a crié vers le Père. Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'amour de Dieu était si fort que Dieu a détourné son regard de son propre fils parce qu'il voulait avoir la possibilité de regarder les autres fils qui étaient perdus. Il a détourné son regard. Il a entendu les cris de son fils. Il a eu mal dans le cœur. Mais c'était le prix à payer pour que l'humanité tout entière connaisse la rédemption par la puissance de ce sang qui devait être versé à la croix du calvaire. Et donc, pendant que Jésus était sur la croix, les brigands l'insultaient. Parce qu'il était comme un brigand, mais il n'était pas un brigand. Il était comme un pécheur, mais il n'était pas un pécheur. Sur la croix, c'était la preuve d'amour de Dieu. Placé au-dessus de la montagne, afin que toute l'humanité voie combien grand a été cet amour. Jésus est resté immolé entre les deux soirs. La douleur jusqu'au point où quelqu'un, dans la haine la plus atroce, a pris son épée, a balancé sur son flanc, transpercé en deux. Et l'eau a coulé. Et le sang s'est versé. Et tous les scientifiques vont vous dire que Jésus n'est pas mort d'une mort normale. Jésus n'est pas mort parce qu'on le battait. Il était robuste. On l'a battu, il n'était pas mort parce qu'on le battait. Il est mort à cause d'une crise cardiaque qu'il a eue sur la croix. La douleur la plus atroce, le sang et l'eau qui sont versés, c'est la résultante de quelqu'un qui meurt par douleur de son cœur, de son âme. Il y a une crise cardiaque qui a été générée par la douleur qu'il a ressentie quand il a vu la méchanceté des hommes. Il a eu mal et le Père l'avait lâché. Il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et il a, et puis après, ayant regardé, il a ouvert les yeux prophétiques et il a vu la défaite de Satan. Il a vu le puissant des ténèbres renversé. Il a vu la rédemption. Il a vu la gloire. Et à partir de ce moment, il a poussé un autre cri. Tout est accompli. Au même moment, les gens qui étaient gardiens du temple ont vu un spectacle extraordinaire. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ils ont jeté le regard vers le lieu très saint, l'endroit où il n'était pas permis d'entrer ou de regarder. Tout le monde pouvait avoir accès. Jésus est mort à la croix du calvaire pour que l'humanité soit rachetée. Alléluia! Et c'est pour ça que la Bible dit, afin que quiconque croise en lui, afin que quiconque croise en lui. C'est-à-dire que Dieu n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour quiconque. Il n'est pas mort pour les noirs, il n'est pas mort pour le blanc, il est mort pour quiconque croit. Il est mort pour quiconque croit en lui, ne périsse point. Le blanc comme le noir, la femme comme l'homme, quiconque croit. Même le bouddhiste, même le sorcier, même le féticheur, même les gens mauvais, même les gens qui fréquentent, n'est-ce pas, d'autres prophètes qui sont venus altérer les voies du Seigneur, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Si tu as cru en Jésus, je t'annonce que tu ne périras pas. Aucune épreuve ne pourra te faire périr. Si tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Je me rappelle un jour, j'allais remettre les diplômes, il y a de cela 12 ans en arrière. Et j'étais dans ma chambre. Quand la puissance des ténèbres est descendue dans ma chambre. Et quand cette puissance est descendue, mon ventre était comme attaché par une main obscure. Et je suis tombé par terre. J'étais seul. J'ai commencé à verser du sang, à faire la diarrhée de sang. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu es mort, c'est terminé pour toi. Frère, je vais vous dire une chose vraie. Aussi longtemps que vous êtes né de nouveau, l'enfer vous déteste. Le diable ne va jamais vous aimer. Mais tant mieux. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La douleur était atroce à mon ventre. Je savais que j'étais à un doigt de la mort, un doigt de l'enfer, de la puissance de l'enfer. Mais si je mourais, j'allais au ciel, pas en enfer. Mais vous savez ce qui s'est passé ce jour? Je vais vous dire en toute vérité. Quand mes forces m'ont lâché, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais et à chaudes larmes, j'avais mal. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas menti. Tu m'as dit d'aller en Côte d'Ivoire, je ne suis pas encore parti. Donc je ne peux pas mourir maintenant. C'était ma dernière prière. J'ai dit, parce que tu m'as dit, pars en Côte d'Ivoire. Et que je ne suis pas encore parti, ça veut dire que je ne meurs pas maintenant. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un à mon aide. Et ma mère est venue à la maison ce jour. Et elle venait rarement chez moi, ou presque jamais. Elle a cogné à la porte. Personne n'a répondu. J'avais plus de voix pour parler. Et elle a ouvert la porte. Elle m'a vu gisant dans une mare de sang. Authentique. La puissance des ténèbres existe. Le diable existe. C'est vrai. Mais Dieu existe aussi. Quand elle m'a transporté, je me suis rappelé le verset qui dit, afin que quiconque croit ne périsse point. J'ai dit, Seigneur Jésus, je crois. On m'a déposé dans le taxi. Dès que le taximen m'a touché, il dit, madame, prenez courage, votre fils est mort. Authentique histoire. Et ma mère me regarde. Je fais un effort de balancer la main pour dire, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Amen. Je suis vivant. Est-ce que vous me comprenez? On m'a transporté à l'hôpital urgence, près de 12 médecins tout autour de moi, poussé sur un brancard. Et j'étais à 2 heures d'une remise de diplôme où les étudiants m'attendaient et j'avais enseigné sur la foi. J'ai dit, Seigneur, s'ils apprennent que je suis à l'hôpital, le jour où ils doivent être consacrés, ils ne croiront pas en ta parole. Je dois sortir d'ici. Ce n'est pas mon endroit. Ce n'est pas là où je suis. Il faut que j'aille à la remise de diplôme. Et on a diagnostiqué, j'ai entendu un médecin dire, il lui faut au moins 2 semaines d'hospitalisation. C'était le diagnostic dans le naturel. 2 semaines. J'étais sur le brancard. Et quand j'ai entendu 2 semaines, ils ont fait une injection. J'ai dit non, non. J'ai secoué ma tête. J'ai pris toutes mes forces. J'ai dit je crois. Je me suis balancé du brancard. Je suis tombé par terre. Ma mère m'a dit qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. J'ai dit je rentre. Je vais à la maison. J'étais malade, vois le sang qui coule. J'ai dit, je suis guéri, je rentre à la maison. J'ai commencé à marcher les mains par terre. Tout le monde me regardait. Alors ma mère se souvint que ce garçon a un appel de Dieu. Quand on disait arrêtez-le, elle dit non, laissez-le faire. Et il y a quelque chose qui lui a dit, laisse cet enfant. Il est en train de passer une épreuve délicate pour sa destinée. Il faut qu'il passe par là. J'ai commencé à ramper. Et je rampais pour entrer à la maison. Les gens me regardaient, un spectacle émouvant. Et j'ai stoppé le taxi. Il a refusé de me prendre parce que j'étais sale. J'ai stoppé le deuxième taxi. J'ai dit, il faut que je rentre. Et au fur et à mesure, j'insistais pour rentrer. Une force est redescendue en moi. Et pendant que je voulais stopper le taxi, les gens commençaient à pleurer dans la même salle d'urgence. Parce qu'on n'avait envoyé qu'une dame qui est venue juste après moi, qui a été couchée sur le même lit. Et le filet de la mort qui devait me prendre a pris cette dame. Elle est morte à ma place. Écoute-moi bien, la bataille spirituelle est souvent forte. La Bible dit, Dieu a donné aux méchants de périr pour que le juste subsiste. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui vont mourir pour que tu sois en vie. Est-ce que tu ne mourras pas avant ton heure parce que tu as cru? Est-ce que ça va? La Bible dit, afin que quiconque croit ne périsse point. Ah non, ne périsse point, je suis rentré. Et ce jour, j'ai remis les diplômes. Mes yeux étaient enflés. Et quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as? Comment ça va? J'ai dit, super bien. Parce que je sais que ça va bien. Je ne regarde pas la carapace extérieure. Je sais que ma valeur n'est pas le diagnostic de ce que mon corps est, mais de ce que mon esprit est réconcilié avec Dieu. Et que je suis enfant de Dieu. Et que Dieu m'a donné l'autorité. Et que je règne par lui. Alléluia. Quiconque croit ne périsse point. Je peux vous donner témoignage après témoignage de la puissance des sorciers qui ont décidé, décrété l'arrêt de ma mort en disant, tu viens au village, tu meurs. Je suis parti au village et je suis vivant. Parce que je sais, mon frère, en certains moments, il faudra bien que tu demandes que tu as cru. Ah non, ce n'est pas ici à l'église que tu vas prouver que tu as cru. Il n'y a pas de sorcier ici, c'est déjà réglé. Il faut en certains moments que tu demandes que tu as cru. Il faut que tu demandes. Oh non. Alléluia, je suis sauvé, gloire à Dieu. Si sauvé, gloire à Dieu. Je suis... Non, c'est pas ça. C'est pas les chants de l'église. Amen. C'est quand ça va mal. Quand on t'a foutu à la porte de ton travail et qu'on te dit qu'en Côte d'Ivoire, en 2007, impossible de trouver le travail. Tu sors de ton travail et tu ouvres la main, tu dis à Dieu, montre-moi le prochain travail. Amen. Sans paniquer, parce que la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En qui tu places ta foi? Au pasteur? Non, tu vas périr. À l'église, tu périras. À un prophète, tu vas mourir. Mais si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le seul ressuscité, je t'annonce que tu ne périras point. Tu ne périras pas, tu ne mourras pas. Mais tu vivras la plénitude de tes jours. Afin que quiconque, frère, tu dois arriver au niveau où, même si ton pasteur ne te reçoit pas, il ne veut pas écouter ta requête, reste accroché à lui. Ne crois pas en ton pasteur, mais crois en lui. Crois en Jésus d'abord, afin que quiconque croit en lui. Crois en lui. Regarde à Jésus. Ne périsse point. Où est-ce que tu veux aller? Quels sont les défis de ta vie? Refuse la médiocrité. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis tu te contentes d'être dans le fond. Non, il faut rechercher des choses plus grandes encore. Crois les choses glorieuses. Vous savez, le problème que tu as, c'est que tu te compares au Burkinabé de ton quartier qui est gardien de la maison. Ou alors au Camerounais de ton coin qui est venu apprendre à jouer au football ici. Frère, laisse-moi te dire, il faut apprendre à te comparer à plus grand que toi. Ah 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 ah. Ne passe pas ta vie à regarder ce qui est petit et penser que tu es arrivé. Il faut regarder des gens qui sont allés plus loin que toi. Oh non. Vous savez, c'est pour ça que je pense souvent à Internet, je regarde. Je vois des hommes de Dieu qui ont touché le monde entier. Je regarde à leur ministère. Je tombe à genoux dans ma chambre ou dans mon bureau. Je dis, Seigneur, je ne suis allé nulle part. Je n'ai même pas encore commencé. Parce qu'il y a des gens qui sont allés très loin avec toi. Il faut apprendre à regarder aux gens qui peuvent te défier dans leur marche avec Christ. Il ne faut pas regarder aux gens qui n'ont aucune destinée. Qui sont simplement là pour faire le commérat dans le quartier. Écoute-moi bien. J'ai appris ceci. Il y a deux camps sur la terre. Le camp des spectateurs et le camp des acteurs. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où j'étais en train de mourir, il y avait des spectateurs. Mais il y avait un acteur, j'étais l'acteur. J'ai décidé d'être celui qui agit pour que les autres parlent. Quand les gens parlent, c'est la preuve que tu bouges. C'est la preuve que tu vis. C'est la preuve que tu fais quelque chose. C'est la preuve que tu crois en Dieu. Parce que les gens parlent. Oh non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il me critique. Il dit ça, mais où est ton problème? Où est ton problème? Il faut bien qu'il parle. Il faut qu'on dise des choses sur toi. C'est la preuve que Dieu a mis sa main sur toi. C'est la preuve qu'il t'a appelé. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai appris à puiser ma force des critiques de mes adversaires. Chaque fois qu'on me critique, je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je prends note. Oh non, il ne prêche pas bien. Il n'a pas d'onction. Je prends note. Je rentre dans la prière. Je demande d'avoir plus que ça. Je demande d'avoir plus de connaissances. Je demande d'avoir plus d'onction. On dit, oh non, il est trop béni. Je dis, Seigneur, bénis-moi encore. Donne-moi maintenant une jet privée. Donne-moi un hélicoptère. Donne-moi un bateau pour qu'il sache que tu es capable de bénir. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens pensent. J'ai appris ceci. Tu veux vivre ta vie en fonction du diagnostic des autres? Tu vivras dans une boîte. Je dis bien dans une boîte, tu ne seras jamais ce que tu veux être. Parce que même ton propre père, il va rêver à ton égard ce qui est plus petit que ce que Dieu a pour toi. Je te dis la vérité. Même ton propre père. Est-ce que tu me comprends? Il faut aller au-delà de ce que les gens pensent. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais, qu'est-ce qui se passe quand on croit? La Bible dit, mais afin qu'ils aient quoi? Afin qu'ils aient quoi? Afin qu'ils aient quoi? Tu es là ce matin? Afin qu'ils aient quoi? Qui est ici et me dit j'ai la vie éternelle? Alléluia. Vous savez, nous disons, oh, j'ai la vie éternelle. Je vis éternellement. Mais écoute-moi bien, la vie éternelle ne commence pas quand tu arrives au ciel. Elle commence sur la terre. C'est ici que ça commence. Est-ce que vous me comprenez? J'ai la vie éternelle. Frère, tu parles du ciel. Tu veux aller au ciel. Très bien. Pas de problème. Je vais te dire ceci. Écoute-moi bien. La raison pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre, c'est parce qu'il veut faire de toi un spécimen. Je te dis, Dieu veut se vanter avec toi. Regardez ce qu'il a dit en ce qui concerne Job. Hey, Satan, viens voir. Tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu l'as vu? Tu as vu sa gloire? Et Satan regarde. Il dit, regarde Job. Tu es là, tu parles. Est-ce que tu as vu celui-là? Non. Écoute, il faut être à même de donner à Dieu d'avoir la joie quand il te regarde lui-même. Que Dieu se vante à ton égard. Et qu'il te regarde, qu'il se vante à ton sujet. Est-ce que tu l'as vu? Et je vais te dire ceci, j'ai appris, frère. Dieu aime se glorifier dans les vies que tout le monde a méprisées. Dans les vies que tout le monde a rejetées. Il aime prendre sa gloire. Là où tu es, c'est trop loin de là où tu devras être. Dieu va t'amener à un autre niveau. Parce que si tu crois, tu devras avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement aller au ciel, non. C'est l'expérience du ciel sur la terre. Quand la Bible dit, tu as la vie éternelle, ça veut dire que maintenant sur la terre, partout où tu es, ça ressemble au ciel. C'est ça la vie éternelle. Le ciel descend à ta rencontre. Tout ressemble au ciel à ton égard. Ton mariage ressemble au ciel. Ta voiture ressemble au ciel. Ta maison ressemble au ciel. Le lit sur lequel tu dors ressemble au ciel. Les habits que tu portes ressemblent au ciel. C'est pour ça que la Bible dit, tout dans sa maison s'écrit gloire à cause de cette vie éternelle que Dieu t'a donnée. Alléluia! Alléluia! Yes, Lord! Alléluia! Alléluia! Yes, Lord! Alléluia! Amen! Alléluia! Je peux voir la gloire de Dieu sur ton visage. Car l'éternité a commencé pour toi. L'éternité a commencé pour toi. L'éternité a commencé pour toi. Sur la terre, l'éternité a commencé. Écoutez-moi bien. Suivez-moi. Vous savez, le temps est arrivé. Les jeunes ne vont plus regarder aux Zouglumen pour prendre leur repère. Ils ne vont plus regarder aux gens qui font couper, décaler, travaillement pour faire. Non, je vous dis, c'est arrivé. Je vous dis, c'est arrivé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ça va changer. Les gens vont ressembler aux pasteurs. Ils vont ressembler aux chrétiens. Ils vont ressembler aux gens de l'église. Mais c'est arrivé maintenant. J'ai dit, c'est arrivé. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu va te susciter pour créer ça dans ta génération. Tes voisins vont venir cogner à ta porte pour dire, montre-moi ton secret. Dis-moi quel est ton secret. Quelle est ta magie? Les gens viendront. Pourquoi? parce que l'heure est arrivée. Vous savez, quand je regarde la télé et je vois les jeunes élèves qui veulent tous ressembler à Duxaga ou ressembler au Mola, je dis, haha, c'est terminé la saison. Bientôt ça change. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde ne va pas chercher à devenir footballeur pour réussir. Les gens vont craindre Dieu d'abord. C'est d'abord ça la référence. Quand on réussira, on dira il va à l'église. On ne dira pas il vend la drogue, parce qu'il va à l'église. Dieu est avec lui. Alléluia.
C'est mon histoire. C'est la mensonge. Louez mon sang.